Charles Pasqua est mort. Comment y croire? Je me souviens, c'était il y a quelques années, à Marseille, une université d'été des jeunes de l'UMP. Il entre dans la salle, non loin de moi, un jeune militant dit à ceux qui l'entouraient « Regardez, la légende est là. Légende dorée pour ceux qui l'aimaient, légende noire pour ceux qui le détestaient. » Nous nous recueillons aujourd'hui devant le cercueil d'une légende.
Il est bientôt midi lorsque le cercueil du défunt Charles Pasqua s'ébranle lentement dans la nef de la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Dans le cœur de l'église, presque tous les ténors de la droite ont fait le déplacement. L'œil sombre, la tête basse, écoutant s'élever jusqu'à l'empereur attendri par ce chant qu'il connaissait bien, les incantations mortifères du Salve Regina. Regardant du haut, de sa coupole, ces grandes puissances que nous regardons de si bas, en ce jour désastreux, ce jour effroyable, où retentit tout à coup comme un éclat de tonnerre, l'étonnante nouvelle. Charles Pasqua est mort. Comment y croire? Mais qui était Charles Pasqua? Doit-on attendre, comme ce fut le cas pour Fouché, presque un siècle qu'Alain Madelin ou que Stefan Zweig reviennent prendre la plume pour raconter l'histoire de cet homme de secret? Plutôt que d'attendre, nous avons voulu donner la parole à ceux qui l'ont côtoyé, Henri Guénaud, que nous avons eu le plaisir de rencontrer cet été, peu après la triste disparition de l'ancien ministre de l'Intérieur, revient pour nous sur les légendes de Charles Pasqua. Pierre Monzani, son ancien directeur de cabinet et ami, avec qui il a rédigé de nombreux livres sur la politique française, nous parlera, quant à lui la semaine prochaine, de l'héritage politique de l'homme et de l'actualité de son message. Chers auditeurs, vous êtes bien sur Transistor, la web radio de l'ENS Lyon, et vous écoutez, après nous, le déluge.
Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer aux chiens l'honneur d'un homme, et finalement sa vie, au prix d'un double manquement de ses accusateurs aux lois fondamentales de notre République, celle qui protège la dignité et la liberté de chacun d'entre nous.
J'aime le bruit et la fureur. Je crois qu'en réalité, ils ne s'occupent que d'eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle moi j'ai décidé d'y aller et de leur dire ce que je pense.
Il n'y a rien. Il n'y a aucun commencement.
Je ne peux pas dire. Si, en ce moment, certains responsables de ces activités terroristes m'écoutent, nous allons mettre tout en œuvre pour les retrouver et pour les châtier.
J'avais dit qu'il faut terroriser les terroristes, bien sûr, parce qu'on n'avait aucun moyen. Dans ce cas-là, il vous reste le verbe.
Regardez-moi. Je ne peur de rien.
J'ai rencontré Charles Pasqua au moment de l'offensive qu'avait engagée Philippe Séguin et lui-même contre l'abandon à l'époque par le RPR de son héritage gaulliste. Ce qu'on appelait la baladurisation, la juppéisation du RPR. Donc, ils avaient engagé un combat à l'intérieur du mouvement, c'était en 89, et qui s'est achevé d'ailleurs en 1990 lors d'un congrès mémorable du RPR, où la moitié de la salle insulter l'autre moitié, ce qui n'était jamais arrivé dans un parti très, très monolithique. Voilà, donc, j'avais trouvé très, très convaincant cette démarche. Et voilà, puis je m'étais joint à eux, un ami, un député des Yvelines d'ailleurs à l'époque, qui s'appelle Franck Borotra, m'avait amené à voir Pasqua. C'est comme ça que j'ai rencontré en même temps et Charles Pasqua et Philippe Séguin.
Suite à cette rencontre, quel rôle a joué M. Pasqua dans votre parcours politique personnel? Quelle a été son influence, à la fois donc en termes de carrière et en même temps, en termes de conviction, est-ce que M. Pasqua a eu une influence sur votre manière d'envisager des problèmes de société ou l'avenir de la France ? Quels ont été peut-être les grands points de fracture entre votre pensée et celle de Pasqua ?
Les choses ne se s'analysent pas de cette façon, à mon sens. D'abord, c'est la rencontre d'une personnalité très forte. Pasqua, c'est la rencontre avec quelqu'un qui incarne une partie de notre histoire, qui moi, m'intéresse beaucoup parce que elle reflète des caractères et une idée de ce que peut être l'honneur d'un homme, de ses engagements. Pasqua, c'était un formidable caractère, une formidable personnalité. D'abord, c'était un homme du Midi, avec cet extraordinaire accent, mais qui était en réalité un extraordinaire accent de sincérité. C'était un homme qui incarnait le Midi, voilà, il incarnait le Sud, et un amour totalement immodéré et probablement déraisonnable pour son pays. C'est quelqu'un qui avait en fait beaucoup de générosité. Il faisait tout avec une grande générosité, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de. C'était de la politique. C'était de la politique avec le. Je l'ai dit à ses obsèques, avec le cœur et avec les tripes. C'était une politique charnelle. Et ça m'a beaucoup. Ça m'a beaucoup marqué. C'était aussi une voix qui touchait les gens. Et en particulier les petites gens, c'est une voix qui s'adressait au peuple français dans ses tréfonds. C'est une voix qui passait par-dessus les corps intermédiaires. Et donc elle est d'ailleurs pour moi inséparable de celle de Philippe Séguin, avec deux personnalités différentes, deux caractères différents, deux tempéraments, deux talents différents. Et en même temps, ils sont inséparables, c'est deux hommes du Sud, deux hommes de la Méditerranée, deux hommes qui parlent haut et fort, et qui parlent haut et fort de quelque chose qui me concerne, qui me touche profondément. Hein. Ce dont ils parlent et la façon dont ils en parlent m'a toujours profondément ému.
À propos d'honneur, puisque vous évoquiez l'honneur de Charles Pasqua et l'influence, disons la puissance que cela a suscité en vous, est-ce que vous pourriez plutôt nous donner un exemple de la manière dont se matérialisait ce sens de l'honneur et du service de l'État dont vous faites l'éloge dans votre relation funèbre chez Charles Pasqua?
Oui, d'abord, ça n'a réveillé aucun sentiment de puissance en moi. C'était simplement. J'avais l'impression de rencontrer ce que je cherchais, voilà, ce que je cherchais depuis que j'avais découvert le gaullisme, l'histoire du gaullisme, l'histoire de la France tout petit. Il y avait cette passion commune dans laquelle moi je me reconnaissais pleinement. Voilà, ces deux hommes ont eu le courage d'affirmer haut et fort, au risque de leur carrière, au risque de déplaire, et ils ont beaucoup déplu, ils ont beaucoup dérangé. Ils affirmaient haut et fort les valeurs qui sont les miennes. Ah, et c'est d'ailleurs deux voix qui manquent terriblement au débat public aujourd'hui. Maintenant, comment dire ? L'honneur de Charles Pasqua, c'est d'abord l'honneur de quelqu'un pour qui le mot honneur a une profonde signification. C'est devenu si rare. C'est devenu si rare d'accorder quelconque importance à l'honneur. C'est quelqu'un qui a toujours été au service de son pays. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait preuve du moindre sectarisme, même s'il était très engagé dans le combat politique. La cause de la France était toujours supérieure. Au-dessus de l'idée qu'il pouvait faire de son parti, au-dessus de sa fidélité même à son parti, ce militant extraordinairement engagé était capable de préférer son idée de la France à son parti. Et c'est quelqu'un, je l'ai dit aussi dans ses obsèques, c'est quelqu'un qui connaissait tous les secrets de la République et qui ne s'en est jamais servi, même pour se défendre, même quand il était attaqué. C'est quelqu'un qui a été trahi et qui n'a jamais trahi personne. Quelqu'un qui était d'une loyauté et d'une fidélité sans faille à ses amis, aux gens qu'il aimait et à tous ceux qui pouvaient à un moment ou à un autre partager ses combats. C'est quelqu'un pour qui la question de l'honneur était essentielle dans la politique comme dans la vie. C'est quelqu'un aussi que je n'ai jamais vu refuser de tendre la main à quiconque dans la difficulté venait solliciter son aide. Et je pourrais en citer des dizaines, de droite, de gauche, du centre. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui avait le sens de l'honneur et qui faisait honneur à la politique. En tout cas, c'est ma conviction profonde. Et tout ce qu'on lui a reproché sur les moyens, qui étaient sans doute les moyens de la politique d'une autre époque, mais je prends un exemple. Dans une émission de télé, l'autre jour, on rappelait son activité au SAC, le Service d'Action Civique, qui était de mouvement un peu occulte du mouvement gaulliste. Il faut se rappeler de cette histoire. L'histoire du SAC, c'est l'histoire de gens qui se regroupent pour affronter les tueurs de l'OS. C'est, alors les moyens ne sont pas des moyens de la politique ordinaire, mais on n'était pas dans le cadre de la politique ordinaire. Et pour lui, il était impensable de laisser le champ libre à des tueurs qui s'étaient jurés d'assassiner le général de Gaulle. Et donc il les a combattus comme il avait combattu dans la résistance. Hein ? Sans d'ailleurs garder d'aucune rancœur vis-à-vis de ceux qui l'avaient combattu. Voilà, c'était. Charles Pasqua, c'est un homme qui pensait profondément que ce qui comptait le plus, c'était la cause que l'on servait. La fin était plus importante que les moyens. Et vous savez, heureusement que dans l'histoire, il s'est toujours trouvé des hommes pour penser cela, pour croire cela. Sinon, il n'y aurait jamais eu de résistants. Personne ne se serait jamais battu par tous les moyens pour la liberté de son pays.
On parle souvent, et vous l'évoquez, d'une légende noire de Charles Pasqua et d'une légende dorée. Et nous avons parlé en votre compagnie de la légende dorée. J'aimerais évoquer très rapidement la légende noire. Oui. Est-ce que vous pensez que justement on en a fait trop avec les légendes de Charles Pasqua, de la légende de Charles Pasqua? Est-ce que cette image d'homme à la fois très expressif, de méditerranéen très généreux et en même temps d'homme de l'ombre parfois très dur, associé aux offices parfois secrètes de la République, est-ce qu'on en a trop fait et est-ce que ça n'a pas peut-être masqué l'homme tel qu'il aurait par exemple pu se révéler dans son intimité ou dans le privé avec ses collaborateurs comme vous avez pu l'être?
D'abord, on a déjà parlé de la légende noire avec l'histoire du SAC. C'est encore une fois, non, je pense que c'est effectivement un personnage de légende parce qu'il a une vie, il a une vie extraordinaire, qui se trouve confronté directement à tous les grands événements de l'histoire de France depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui. C'est pas moi qui ai inventé ce mot, d'ailleurs je l'ai rappelé aux obsèques, c'est un jeune militant dans une université d'été qui le voyant arriver dit à ses copains vous avez vu, la légende est là. Oui, il y a quelque chose de légendaire, la résistance de 15 ans à 88 ans. Ouais. Voilà, c'est. Après, les moyens, encore une fois, les moyens, ils se jugent à l'aune des causes que l'on sert. Et je le redis, heureusement heureusement qu'il y a des hommes et des femmes dans notre histoire capables de utiliser tous les moyens pour servir de très grandes causes. Et Charles Pasqua est quelqu'un qui ne s'est jamais servi. Quoi qu'on en ait dit, c'est quelqu'un que je n'ai jamais vu commettre un acte dont la France pût avoir honte. C'est quelqu'un qui avait une très haute idée de l'État et donc qu'on a traîné dans la boue à certaines époques parce que sa voix dérangeait. Mais je pense que il a beaucoup donné à son pays. Son pays ne lui a peut-être pas rendu suffisamment ce qu'il lui avait donné.
Française, Français, le général de Gaulle est mort. La France est veuve. Promettons à la France de n'être pas indigne des leçons qui nous ont été dispensées. Et que, dans l'âme nationale, de Gaulle vive éternellement.
Vous étiez où ce jour-là, Charles Pasqua ?
J'étais en Israël.
En Israël, et vous apprenez la mort du général. Qu'est-ce que vous ressentez ?
Non, j'ai appris la mort du général de Gaulle en arrivant à Paris, à l'aéroport. C'est mon fils qui est venu me chercher. Et il avait les larmes aux yeux, il m'a dit « le général de Gaulle est mort ».
Vous vous souvenez de ces images, de ces obsèques ? De cette France réunie, de ce cercueil et ce drapeau ?
Oui, bien sûr.
De Colombey et de Notre-Dame ?
Bien sûr. Moi, j'étais à Colombey. Aux obsèques à Colombey.
Pour le général de Gaulle, vous étiez un inconditionnel.
Ah oui, ça, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'était à la fois Clovis et Charlemagne, Jeanne d'Arc, tout ce que vous voulez. Napoléon, c'était la quintessence de tout ça. Voilà.
Vous comprenez que c'est une autre époque qui s'ouvre ?
Oui. Je crains que ceux qui lui succèdent n'aient pas, et c'est un peu inévitable, n'aient pas la même densité, la même capacité à rassembler.